دعني يا ليمي دعني يا ليمي على الفرقة نبكي غابوا عني احباب قلبي ما بال دعني يا ليمي على الفرقة نبكي غابوا عني احباب قلبي ما بالوا ما بالوا ما بالوا دعني يا ليمي على الفرقة نبكي غابوا عني احباب قلبي ما بالوا راني من فقدهم راني من فقدهم في حالة نحكي مثل الطير الولي في اللي خلى أهل وطان يقف سوسيق يقف سوسيق طالمو حزان
ارواح تشوف ما جراني قد شان من حوالي وخرج داوز
وكثر توسكي راك بعيد للبعد مارك ينوسي راك بعيد للبعد مارك ينوسي راك بعيد للبعد مارك ينوسي راك بعيد للبعد مارك ينوسي
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, une émission qui vient vous visiter donc chaque un samedi sur deux pour vous animer ces soirées, surtout ces soirées du mois du Ramadan. Et avec vous à l'animation Lamine. Ce soir, ce qu'on vous propose comme sujet, c'est une entrevue, une discussion autour d'un sujet qui a fait, on peut dire, le tour du monde autour de la question de la relation entre l'Égypte et l'Algérie, en particulier de la participation des éditeurs égyptiens au Salon du Livre International. Une initiative qui a été lancée à partir de Montréal, il faut le mentionner, et qui a fait le tour du monde. En premier lieu, la presse nationale en Algérie et aussi la presse internationale, les grands journaux essentiellement francophones, donc en France, en Europe et en Algérie, ont parlé de cette question, de cette initiative qui a regroupé un nombre important d'intellectuels algériens qui ont tout simplement dit non à cette façon de faire vis-à-vis du livre, vis-à-vis de la culture, puisqu'ils viennent dénoncer la décision du commissaire du Salon international du livre d'Alger qui a décidé d'éliminer, on peut dire, les éditeurs de livres égyptiens à cette édition qui va se dérouler au mois d'octobre prochain. Une première, puisqu'il faut mentionner que les éditeurs égyptiens sont parmi les seuls les plus actifs, les plus présents au niveau de ce salon depuis sa création. Ce soir, nous invitons l'initiateur de cette démarche qui a l'idée cette initiative pour dénoncer d'une façon, articulée, d'une façon positive, cette façon de faire vis-à-vis du livre et vis-à-vis de la culture en Algérie. Donc, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ahmed Ben Saada, auteur, très actif aussi sur plusieurs questions, à travers des articles qu'il publie, à travers plusieurs journaux en Algérie et sur plusieurs sites au niveau international. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir et bienvenue à l'émission.
Bonsoir Lamine, et puis n'tmennaou Ramadan Moubarak les auditeurs, ou Inch'Allah Siyam Maqboul ou Aïdkoum Moubarak Inch'Allah.
Merci beaucoup Ahmed Ben Saada. Donc comme je l'ai mentionné en introduction, nous sommes là ce soir pour parler de ce sujet qui a fait quand même la une de plusieurs médias ou à travers le monde, et ça serait notre entrevue qui va durer avec vous, je dirais 1h30. Bien sûr, en début d'émission, on ne peut pas mentionner, puisque même ce sujet est relié au sport, on ne peut pas mentionner les derniers événements autour de cette équipe nationale, autour du foot en Algérie, suite au score que l'équipe nationale a réalisé donc hier. Une grande déception, c'était un partout contre une équipe de Tanzanie, mais il faut quand même mentionner que les équipes maghrébines ont eu presque le même score, puisque la Tunisie aujourd'hui a fait 2-2 contre le Malawi à Tunis, et aussi le Maroc n'a pas pu marquer un but contre l'autre équipe africaine du même groupe, ce qui fait une déception maghrébine. Mais par contre en Algérie, il faut mentionner que l'entraîneur national, M. Rabah Saden, a donné sa démission aujourd'hui, une démission tant attendu par plusieurs spécialistes du football en Algérie, puisque l'équipe nationale, depuis sa qualification à la Coupe du Monde, n'a pas pu vraiment démontrer un visage très positif. Et peut-être il faut dire qu'elle n'a pas pu être à la hauteur des ambitions du peuple algérien, qui peut-être a mis la barre trop haute. Cette qualification a été méritée, mais peut-être que l'équipe n'avait pas encore atteint le niveau que l'ensemble des Algériens pensaient que leur équipe, et puisqu'il faut mentionner que plusieurs Algériens pensaient que leur équipe allait passer au deuxième ou et même en quart de finale durant cette Coupe du Monde. Une grande déception, M. Rabah Saden dit qu'il n'accepte pas qu'il soit maltraité, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au stade de Blida hier. Le public était très très fâché, le public a dit des choses que M. Saden ne peut pas accepter à son âge, c'est ce qu'il a dit en sortant du bureau de M. Rawarawa et en déposant sa démission. Donc c'est un petit peu le mot qu'on va dire par rapport à l'information sportive. Notre sujet ce soir, c'est la participation égyptienne au Salon du Livre International. Et notre invité, comme je l'ai mentionné, c'est M. Dr Ahmed Ben Saada, qui est l'initiateur de cette pétition, qui a commencé par une pétition, mais on peut dire aujourd'hui que c'est devenu un élan intellectuel pour dénoncer la position du commissaire du Salon du Livre International, qui a décidé donc de mettre à l'écart les éditeurs de livres égyptiens. Avant de donner la parole à notre invité, je voudrais quand même donner une petite introduction du contexte de ce qui s'est passé entre l'Égypte et l'Algérie. L'Algérie, dans les années, donc on peut dire dans les années noires, la décennie noire a presque disparu de la scène footballistique donc africaine. Même après que la reconnaissance nationale s'est établie en Algérie, la paix a commencé à s'établir progressivement. L'équipe algérienne n'a pas participé à deux coupes d'Afrique, il faut le mentionner, en 2006 et en 2008. En 2009, pour la qualification de la Coupe du Monde 2010, l'Algérie se retrouve dans un groupe très difficile, dominé théoriquement par une équipe égyptienne qui a dominé le football africain. Le peuple égyptien s'attendait à une qualification facile. Son équipe a pu avoir la Coupe d'Afrique 2006 et 2008 devant de grandes équipes comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire et ne pensait pas un jour que l'équipe algérienne qui avait disparu de la scène africaine au niveau du football pourrait faire face à cette équipe égyptienne. D'autre part, les Algériens ont même oublié qu'ils avaient une équipe nationale suite aux grandes déceptions qui sont arrivées durant les années 90 et l'an 2000. Mois de juin 2009, l'Algérie arrive à battre ce champion imbattable africain, l'Égypte. 3-1. Les Algériens se réveillent avec un espoir qui était presque impossible, une ambition de retrouver la Coupe du Monde, et les Égyptiens, sous le choc, sont un petit peu étonnés qu'ils soient, disons, bousculés et même qu'ils risquent de ne pas se qualifier à la Coupe du Monde, avec une équipe qui a eu la Coupe d'Afrique deux fois. De part et d'autre, les médias se mêlent et une tension médiatique s'impose entre les deux pays. On sait très bien que l'équipe nationale algérienne, quand elle s'est déplacée en Égypte le 12 novembre 2009, a été caillassée à la sortie de l'aéroport. Les Égyptiens disent que c'est une comédie, c'est un film truqué par les Algériens, que c'est pas vrai. On a même parlé de Kitchop. Et d'autre part, les Algériens ont dénoncé. Les intérêts égyptiens ont commencé à être attaqués, même, disant essentiellement, la compagnie Jizi, qui a eu beaucoup de dégâts, et même d'autres compagnies. La tension monte, les Algériens perdent 2-0, un match de barrage s'impose au Soudan. L'État algérien mobilise, il faut mentionner que c'est le plus grand pont aérien civil, après celui de Berlin, qui n'a jamais été mis en place à travers l'histoire, donc celui de Berlin qui est un petit peu équivalent, pour un plan donc de faire déplacer 10 000, on parle même de 15 000 supporters algériens. L'Algérie gagne et se qualifie à la Coupe du Monde. L'Égypte crie au scandale, une autre tension médiatique. Les symboles de l'Algérie sont insultés par des journalistes, des fois par des artistes, par quelques intellectuels aussi égyptiens. La réaction algérienne était très discrète, surtout le gouvernement. Le NTV décide de boycotter les films égyptiens. C'est la première fois depuis l'indépendance et depuis l'indépendance que le mois du Ramadan en Algérie se déroule sans films égyptiens. Le salon des livres du livre arrive. Le commissaire du salon du livre international d'Alger décide et déclare clairement qu'il va exclure les éditeurs égyptiens, ces éditeurs qu'il faut mentionner, qui étaient parmi les premiers qui ont participé à ce salon. Et on sait très bien que la culture égyptienne est quand même une puissance, que l'Égypte est une puissance culturelle dans le monde arabe et même en Afrique du Nord, donc par rapport aux pays du Maghreb et surtout en Algérie. Personne n'en parle. Un mois après, une réaction qui, on peut dire, a été un raz-de-marée, puisque ça a commencé par une idée que M. Ahmed Ben Saada avait fait circuler autour de lui, à travers quelques emails. Et là, on voit la diaspora algérienne, beaucoup d'intellectuels qui se mobilisent autour de cette pétition, qui a été initialement une pétition qui est devenue, on peut dire aujourd'hui, un élan d'intellectuels pour dénoncer ça. Beaucoup d'autres réactions, des gens qui sont pas d'accord avec cette démarche-là, des fois d'une façon émotive, des fois d'une façon plus structurée. Et ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner l'occasion à M. Ahmed Ben Saada, premièrement, d'expliquer sa démarche, le pourquoi, le comment, la finalité. Et après ça, on va essayer de lui poser toutes les questions qui se posent sur les forums, sur aussi la bouche de plusieurs personnes, soit à Montréal ou à travers le monde. Donc en premier lieu, M. Ahmed Ben Saada, désolé un petit peu pour la longueur de mon introduction, mais je voulais quand même mettre les auditeurs dans le contexte du débat. Pourquoi la relation entre l'Algérie et l'Égypte est arrivée à un niveau où un commissaire de salon des livres décide d'une façon unilatérale, puisque même la ministre dit que c'est lui qui le décide, donc j'ai pas à intervenir. Et pourquoi on est arrivé à cette réaction? Donc en premier lieu, la question, je vous donnerai le temps d'expliquer exactement pourquoi cette démarche. C'est quoi sa finalité? Et aussi, comment vous avez pu, pour faire mobiliser autant de monde, des noms que rarement, même dans des situations les plus difficiles en Algérie, ont signé un même document, et on se rappelle dans les années 90, mobiliser tous ces gens-là autour d'une cause. Je peux vous dire que, juste pour ça, je vous tire chapeau, au-delà du contenu de la cause, mais on voudrait vraiment comprendre comment vous avez fait et comment cet élan a pu arriver à cette ampleur-là.
Merci beaucoup Lamine. Cette introduction était nécessaire à mon avis pour bien comprendre les enjeux. En fait, tout a commencé le 9 août 2010 lorsque un article dans l'Expression disant que le commissaire du salon du livre d'Alger, qu'on appelle le SILA, a décidé unilatéralement d'interdire aux Égyptiens de participer à l'édition de cette année. Et donc, quand j'ai vu cette information, ça m'a un petit peu choqué. Puis, il y a eu un article d'un journaliste algérien qui s'appelle Ahmed Halfaoui. Et quand j'ai vu l'article, et j'ai vu les deux articles, l'article du commissaire qui disait on veut pas des Égyptiens, et que j'ai vu l'autre article de monsieur Halfaoui, je me suis dit mais ça se peut pas, on ne peut pas laisser passer une chose pareille. Les arguments avancés par le commissaire du SILA ne tenaient pas debout. On ne pouvait pas interdire un livre sous le prétexte que les gens nous avaient insultés ou les gens avaient caillassé un autobus. C'est vrai que c'était dramatique, on a tous souffert de cela. Je veux dire, dans les forums, j'ai vu beaucoup de gens qui me prêtent des mauvaises intentions. Tous les gens qui ont signé cette pétition sont des gens qui aiment leur pays et qui n'aiment pas que leur pays soit que les valeurs de leur pays soient bafouées, que l'honneur du pays soit bafoué, que notre drapeau soit brûlé. Nous sommes des Algériens et des vrais Algériens. Nous ne sommes pas des sbires des Égyptiens. Sauf qu'on dit que comment se fait-il qu'on est capable de jouer au foot avec des équipes égyptiennes et sans aucun problème, personne ne demande le boycott, alors que quand il s'agit de livres, on demande le boycott. Il n'y a aucune relation. On peut aussi bien être fâché des comportements de certains Égyptiens, et il y en a eu pas mal, mais de là à interdire le livre, ça veut dire qu'on frappe sur la mauvaise chose. Le livre est sacré. Le livre, c'est la culture. En interdisant un livre, en fait, on punit le lecteur. On punit les éditeurs égyptiens, mais on punit aussi le lecteur. En interdisant un livre, on punit la culture. Autre chose qui m'a un peu mise hors de moi, c'est le fait que le commissaire du SILA, j'ai appris par la suite qu'il était éditeur de son état, c'est à lui de défendre le livre. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y ait une décision politique à haut niveau de dire ok, on coupe les relations avec l'Algérie, c'est un problème, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais on aurait pu essayer de le comprendre et essayer de voir la problématique qu'il y a derrière ça. Mais qu'un commissaire éditeur de son état, commissaire d'un salon international du livre, ne défendent pas le livre, c'était aberrant. C'est tout ça qui m'a fait réagir. Et en fait, une semaine après, il y avait une équipe qui venait jouer en Algérie. Et puis il y a personne qui disait mais ces gens-là, on veut pas jouer avec nous, avec eux. Ils nous ont insultés, ils ont brûlé notre drapeau. Personne n'a dit ça. Bien au contraire, ils les ont accueillis avec des fleurs. Il y a même le président du club de la GSK, Hanashi, qui a fait une déclaration. J'ai été ébahi. Il a fait une déclaration. Il a dit ces matchs-là, grâce à ces matchs-là, on va essayer de renouer avec l'Égypte. Personne ne lui a dit t'es un traître. Si vous allez sur les forums actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous traitent de traîtres et de harki. Mais il y a quelque chose qui est avec le, il y a quelque chose en fait qui concerne le foot, qui ne s'applique pas aux autres choses. Et puis en tapant sur le livre, vraiment, on a tapé sur la mauvaise chose. Et protéger le livre, c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Surtout que, pourquoi on a tapé sur le livre en fait ? C'est que le livre, c'est le parent pauvre de la société algérienne actuellement. Les gens ne lisent pas, les librairies disparaissent, les émissions culturelles sont quasiment inexistantes. Les gens, quand je discute avec des gens, ils publient à compte d'auteur, ils se font arnaquer, il n'y a pas cette émulation par rapport au livre. Donc l'action au-delà, l'action que j'ai proposée au-delà de dire on renoue avec les Égyptiens, etc., c'est de dire où est-ce qu'on en est dans notre réflexion avec le livre en Algérie. Et cette action, à mon avis, a replacé le débat sur le livre.
Mais pour revenir à cette action, est-ce que l'objectif c'était juste, donc, parce que là vous avez un petit peu parlé d'un objectif qui est très intéressant, c'est de relancer le débat sur un sujet qu'on peut dire, c'est rare de lire des articles ou de voir des émissions de radio, de télé en Algérie qui parlent de la position du livre. Sans démagogie d'une façon très claire, oui, pour essayer de pousser l'État à intervenir là où elle doit intervenir pour maintenir un certain niveau de lecture. Et on sait très bien qu'actuellement, les nations se mesurent par leur niveau de lecture.
Exactement.
Mais pour revenir à cette initiative, c'était quoi un petit peu les finalités ? Est-ce que c'était juste que le commissaire revienne sur sa décision, ou est-ce que vous aviez aussi d'autres ambitions de ramener le débat autour du livre ?
Alors, au début, je réponds à votre première question, c'est que au début j'ai sensibilisé mes contacts, on se partage avec un bon nombre d'amis des courriels, des idées, etc., et de leur dire on peut pas laisser les choses comme ça. Il faut faire une action. Et au début, je peux vous avouer que c'était timide. Les gens ne comprenaient pas. Est-ce qu'on devait faire quelque chose contre ça, ou c'était la fatalité, c'est le livre, c'est pas grave, etc. Et ça a mis, je dirais, peut-être une semaine avant que les gens réagissent. Et une fois que les gens ont réagi, et là je voudrais dire que je ne suis pas seul dans cette aventure. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Bon, c'est vrai que l'actualité m'a mis de l'avant, mais il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'ombre et je les félicite. Ce sont des personnes, pour la plupart, que je ne connais pas, que je n'ai connues qu'à travers cette cause, et qui m'apportent qui apportent de l'eau au moulin, qui travaillent d'arrache-pied et qui font honneur à leur pays. Contrairement à ce qui a été dit aussi dans les journaux, on n'en a rien contre le commissaire. On n'en a rien contre la ministre de la Culture. Ce qui nous intéresse, nous, c'est une décision. C'est la décision. Il n'y a pas d'affaire personnelle là-dedans. Personnellement, je ne connais pas le commissaire. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et madame la ministre, je l'ai vue qu'à la télé. Fait que je n'ai vraiment pas réagir de cette manière au niveau individuel est probablement compréhensible. Réagir de cette manière à un niveau de responsabilité d'un pays, c'est pas acceptable. Parce que, vous comprenez? Je comprends que des personnes peuvent être émotives, bon, hargon al-ulam, etc. Mais un niveau de niveau de responsabilité d'un salon international ou au niveau du ministère de la Culture, on ne peut pas réagir de cette façon-là.
C'est-à-dire que pour donner un exemple plus concret par rapport à ce que vous avez expliqué maintenant, vous aurez accepté, par exemple, que des Algériens sur place vont boycotter le stand des éditeurs à titre individuel, les gens ne veulent pas, ils vont pas y aller. Vous pouvez contester ça, mais que les organisateurs qui sont censés faire la promotion du livre, pour vous c'est inadmissible qu'ils boycottent une des cultures du monde, qu'elle soit petite ou grande, oui, sans parler de l'importance de la culture égyptienne, oui, et de ce que les livres égyptiens
À la limite,
c'est au-delà, même si c'était un petit.
Oui, 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 ce que je comprends. On peut aller même plus loin que ça. Dans un article récemment, qui a été publié récemment, de Amin Zawi, lui, il a identifié, il y a certaines personnes, certains auteurs, qui ont mal parlé de l'Algérie. Puis lui, il a dit, bon, ces gens-là, on devrait les boycotter. Ces gens-là, les personnes, comme par exemple Al-Aswani, il a écrit des très mauvaises choses sur l'Algérie, on devrait le boycotter. Et probablement, ça va être le seul qui ne va pas être boycotté. Vous savez pourquoi? Parce que Al-Aswani est traduit en plusieurs langues. Donc il y a des éditeurs français qui peuvent ramener, ou belges, ou suisses, qui peuvent ramener des livres d'Al-Aswani. Donc Al-Aswani ne sera pas lu en arabe parce que les Égyptiens ne sont pas venus, mais Al-Aswani pourrait être lu dans une autre langue.
À travers un éditeur français. À travers un éditeur français, belge, etc. Ou...
Donc l'idée de Amin Zawi qui est respectable, c'est de dire, il y a des gens qui nous ont épaulés, des écrivains égyptiens qui ont écrit de très belles choses sur l'Algérie et qui étaient contre ce qui s'est passé.
Au moment de la tension.
Au moment de la tension.
Et qui ont eu des problèmes.
Et qui actuellement ils sont interdits de salon en Algérie. C'est pas acceptable.
Donc vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Nous avons encore, donc nous serons avec vous jusqu'à minuit. On a encore une heure. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr Ahmed Ben Saada, auteur. Donc il a écrit plusieurs livres. Même il faut mentionner que au niveau du ministère de l'Éducation du Québec, c'est une référence puisque il est chargé d'écrire des livres qui sont utilisés au niveau de l'enseignement dans le secondaire au Québec. Aussi, on peut dire journaliste puisqu'il écrit sur plusieurs journaux essentiellement algériens, initiateur de cette pétition. Et pour vous donner plus d'informations, vous pouvez aller sur son site qui est www.ahmed, donc A-H-M-E-D, Ben Saada, B-E-N-S-A-A-D-A. .com, Ahmed Ben Saada en un seul mot, vous allez trouver plus de détails dans quelques instants, puisque, comme on l'a mentionné depuis quelques semaines, le passage à la publicité se fait d'une façon automatique. Donc on va prendre une petite pause publicitaire, et après ça, on va revenir avec notre invité. Dans la deuxième partie de l'entrevue, on va essayer de lui poser toutes les questions qui se posent à travers les forums, qui, je dirais, seraient en désaccord de cette initiative, pour essayer de lui donner l'occasion de nous éclaircir sur la bonne volonté de cette initiative.
Radio Centre-Ville, c'est vous, c'est moi, c'est également plus de 40 communautés ethniques différentes qui partagent leur richesse culturelle, musicale et linguistique depuis 1975. Aidez-nous à maintenir cette tribune d'expression en participant à notre Radiothon qui se déroulera la fin de semaine du 10, 11, 12 septembre 2010 sur le 102,3 FM. Pour faire un don, composez le 514-495-2597 ou via notre site au www.radiocentreville.com. Et n'oubliez pas que les 10, 11, 12 septembre, un don pourra faire toute la différence pour les 35 prochaines années. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h. Sur Radio Centre-Ville.
Bonjour, ici Claude-Marie Landry. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame Sonore qui parle de musique, de film, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame Sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du pur plaisir.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on reçoit Dr Ahmed Ben Saada, donc sur la question de la participation ou non des éditeurs de livres égyptiens au Salon international du livre d'Alger qui va se dérouler au mois d'octobre prochain. Monsieur Ahmed Ben Saada, donc on avait parlé un petit peu de votre démarche, du pourquoi. Maintenant, je vais essayer de revenir sur des questions que j'ai pu identifier dans les forums, dans quelques réactions, puisque j'ai pas vu beaucoup de réactions structurées à travers des articles de journaux contre votre démarche. la majorité des articles de journaux, comme je l'ai mentionné, vous pouvez donc lire, puisqu'il y a vraiment une synthèse globale, une couverture globale de cette pétition sur le site de M. Ahmed Ben Saada, www.ahmedbensaada, donc A-H-M-E-D, Ben Saada, B-E-N-S-A-A-D-A, le tout en un seul mot.com. Vous allez voir un petit peu la couverture médiatique nationale et internationale sur ce sujet. Donc une des questions que j'ai pu identifier au niveau des forums, c'est que les gens disent qu'on est blessé d'une façon globale. Les gens disent que après le match du Soudan, il y a eu un grand meeting donc devant les pyramides avec la participation de plusieurs. On a identifié sûrement plusieurs acteurs, donc plusieurs artistes, peut-être des intellectuels, et que il y a eu aussi des appels de la part des Égyptiens de boycotter culturellement l'Algérie. Donc les gens considèrent que c'est une action tout à fait naturelle de la part, disons, des autorités algériennes, bien qu'actuellement ils ne l'assument pas, puisque la ministre a dit que c'est le commissaire qui décide, que je ne suis pas responsable de sa décision, mais que c'est une réaction normale. Vous avez demandé de nous boycotter, on va réagir de la sorte. Des artistes, des intellectuels, pas tous, mais des intellectuels ont quand même dit des choses graves sur l'Algérie, ont touché, disons, le machère, qui m'a dit, les Algériens, et c'est un petit peu délicat, peut-être il faut attendre à l'année prochaine. C'est quoi votre réponse par rapport à ces arguments?
Ok, le année prochaine me dérange un peu parce que...
À titre d'exemple.
Parce que ce serait quoi? Une année, deux années, dix ans? La question se pose. Moi, je me rappelle très bien, j'ai suivi toute cette épopée sur le Masriya. Je me rappelle très bien. Et même la nuit là, où il y a eu le gros déballage, j'ai pas dormi. J'ai mis des cassettes puis j'ai tout enregistré. Les gens passaient sur le studio Beitek là, ils passaient puis ils insultaient. J'ai été choqué, j'ai été aussi très frustré de voir ça. Mais si on résume finalement, qui a insulté? En général, c'est les médias, Mamar Adib et les autres. Il y a eu un paquet de pseudo-acteurs, disons, là, mais pas tous, parce qu'il y en a, dans le lot, il y en a qui ont été contre, comme je cite Amar Ramsis, qui m'avait contacté personnellement, qui avait signé la pétition que j'avais fait circuler au mois de décembre. Il y a eu, donc, les acteurs et les gens du show business. Il y a eu les avocats. Mais en tant que les écrivains et les intellectuels, disons, comme groupe homogène, ils sont jamais prononcés. Ils sont prononcés à titre individuel, comme j'ai cité tout à l'heure, j'ai cité Youssef Zidane, qui a été vraiment très méchant. Mais en tant que groupe, ils ne se sont pas prononcés. Il n'y a pas eu l'union des écrivains qui a fait quelque chose, etc. Moi, ma position était claire dès le début. Nous sommes un pays souverain, il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens des médias qui nous insultent et qui appellent au meurtre, même il y en a eu qui ont appelé au meurtre, on les poursuit, il y a des instances au niveau des pays arabes, de la Ligue arabe, au niveau même international, on les poursuit, exactement comme on fait l'union des avocats algériens, ils sont en train de faire une démarche.
Exactement, pour les sanctionner.
On sanctionne ces gens-là parce que leur démarche était pas constructive. Mais le livre, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est ça que, à la limite, comme je vais me répéter, il y a très peu de d'écrivains qui ont pris cette position-là. Ou ils sont tués, ou alors ils ont décidé de parler positivement d'Algérie. Il y en a eu quelques-uns, ben c'est juste ces quelques-uns-là qu'on doit pointer du doigt. On ne doit pas bannir la littérature égyptienne. Vous avez parlé de l'importance de la littérature égyptienne. L'Égypte, c'est 40% de la littérature arabe. C'est pas négligeable. Et les gens disent, oh, mais parce qu'ils nous ont introduit des livres islamistes et tout ça, il y a tout un débat là-dessus. Je veux dire, le livre, c'est le livre. S'il y a un lectorat, ben, il y aura le livre. Le livre suit le lectorat. Et vice-versa aussi. Si on propose des bons livres à des lecteurs, ils vont les lire. Et ça, c'est le rôle du commissaire. C'est le rôle du commissaire de dire, il y a tant de livres, quel type de livre? Je comprends que le commissaire puisse intervenir là-dedans, mais de dire on bannit le livre parce qu'ils nous ont insultés et parce qu'ils nous ont brûlé notre drapeau, je ne trouve pas ça correct.
Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être même le commissaire, bien qu'il soit éditeur, a donné une importance ou l'a priorisé, parce que c'est quand même un salon du livre, mais c'est un salon qui a une portée commerciale, puisque quand on participe dans un salon, c'est pour vendre aussi des livres à des librairies ou à des grands grossistes du livre dans un pays donné. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est oublié, et ça je pose la question, vous ne pensez pas qu'il a pensé plutôt au boycott économique, qu'on sait très bien Jay-Z a souffert, des compagnies égyptiennes ont souffert après ce qui s'est passé, et qu'il a plutôt poussé plutôt, il pensait que c'est un boycott purement économique, qu'il a oublié le rôle du livre, ou est-ce que d'après vous, c'est plus cibler des intellectuels, parce que pour lui, les intellectuels, ils ont participé à insulter l'Algérie.
Alors, la réponse à cette question, elle est dans un article paru hier, écrit par un journaliste algérien qui s'appelle Chaouki Amari dans l'Ouattan. Donc vous pouvez aller le voir. Que reste-t-il de l'Égypte en Algérie? Il fait un bilan complet de relations économiques entre l'Algérie et l'Égypte. Et c'est étonnant. C'est étonnant parce que il y a eu des perturbations quand il y a eu les événements, mais après c'est devenu exactement comme même Jay-Z fait des profits actuellement en Algérie, fait énormément de profits. Je vous lis ça comme ça. Une filiale des fonds d'investissement égyptien Citadel achète 9% d'actifs de la première et unique mine d'or algérienne. Pour un montant de 3 millions de dollars. Vous avez, par exemple, les services de douane le premier semestre 2010, 189 millions de dollars d'échanges, avec une petite baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Donc, au niveau économique, c'est ça qui est étrange. C'est quand on regarde au niveau économique, les échanges ont peut-être légèrement baissé, mais il n'y a pas eu de boycott. Le boycott, c'est juste le livre. Le boycott, c'est dans des... À mon avis, on pensait que personne n'allait prendre la défense du pauvre livre. On disait ça, bon, on va taper sur le livre, on va taper quelque part, on tape pas sur l'argent parce qu'on fait des business avec eux, mais on va taper sur le livre, il y a personne qui va s'en rendre compte.
On tape sur les feuilletons puisqu'au niveau de la télévision.
Exactement, on tape sur les feuilletons, on tape en fait sur la culture qui est le parent pauvre de la société algérienne en fait. La culture, bon, ça revient en second ordre, etc. Alors que la culture devrait être la prunelle de nos yeux. On devrait faire tout pour la préserver.
D'autres personnes, donc toujours dans le cadre des réactions, je rappelle que la première demi-heure, c'est vraiment introduire dans l'occasion M. Hamid Saïda de nous expliquer sa démarche. La deuxième demi-heure, c'est plus, je vais ramener les réactions, disons, des gens qui sont contre cette démarche-là. Et à la troisième demi-heure, on va plus parler des perspectives de cette démarche-là en termes de finalité et en termes aussi d'exemples, je dirais, exemplaires dans le sens regrouper autant d'auteurs. Je vous donnerai l'occasion aussi, M. Ahmed, de citer les noms des personnes qui ont signé, des personnes qui ont rarement signé un même document. Ça, il faut le mentionner. Et je voudrais quand même, à la dernière demi-heure, qu'on parle de ça comme un exemple. Loin un petit peu de la démarche des regroupements politiques, mais plutôt des regroupements intellectuels pour faire évoluer les choses essentiellement en Algérie. Mais on va essayer de profiter à la deuxième demi-heure de ramener les points de désaccord par rapport à cette démarche-là. D'autres diront que, ok, l'Égypte représente 40% ou même 60% de la culture arabe, mais on n'a pas besoin de ça. Je sais qu'il y a des fois des positions idéologiques par rapport à ce discours-là, mais c'est un discours qui dit que nous, les Algériens, actuellement, on est en manque de technologie, on est en manque d'éléments qui nous viendraient plus de l'Occident que de l'Orient. On a besoin d'éléments qui vont nous permettre de moderniser notre société et l'Égypte peut représenter, pour les gens qui connaissent pas l'Égypte, un modèle d'un Orient rétrograde, d'un Orient qui va nous ramener plutôt en arrière qu'en avant, et que peut-être c'est une occasion, certes émotive, de se détacher de l'Égypte, mais qui aura des incidents positifs sur la culture algérienne et sur l'ouverture de la culture algérienne envers l'Occident.
Oui, ben j'ai vu ce type d'argumentaire sur Internet. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas en interdisant l'Égypte que... Je veux dire, si l'Égypte ne fournit pas de livres scientifiques... Ben, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, on n'aura pas de livre scientifique. Je comprends pas dans ce sens-là. Si elle est pas là, elle le donnera pas. Si elle est là, elle le donnera pas. C'est pas en la boycottant qu'on va arranger le livre scientifique. Deuxièmement, dans une société comme la nôtre, l'élément de base, c'est pas la société, c'est pas les livres scientifiques, c'est de donner une culture à ce peuple-là. Quand on lit un livre, quand on s'imprègne des valeurs qui sont véhiculées dans un livre, on devient un bon citoyen. Je veux dire, c'est tout ce qui s'est passé la décennie noire. Là, est-ce qu'on a besoin de quoi, de livres scientifiques, faire quoi, pour faire des armes, pour tuer les gens? Je veux dire, on a un problème de fond. Une société a besoin de lire. Les universités ont besoin de former des gens sur des techniques. Mais la lecture elle-même, la découverte, l'évasion, c'est extrêmement important pour une société. Ne pas lire Naguib Mahfouz, c'est je veux dire, pour moi, Naguib Mahfouz, c'est l'équivalent de Zola, sinon de Victor Hugo, etc. C'est du même gabarit, sinon mieux. Taha Hassin, même Al-Aswani qui a insulté tout ça, son livre L'Imam Yacoubien a fait le tour du monde, et j'étais un des premiers à le lire, bien sûr, avant qu'il l'insulte, mais disons que c'est un chef-d'œuvre. L'histoire de mélanger la technique, oh ben c'était de, mais je veux dire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte tous les pays arabes, tous les pays du tiers-monde. Ok, il y a plus de tiers-monde dans notre scie-là. On ramène que les étrangers, que les Américains finalement. On gagne les Français, les Américains. Il n'y a plus d'Arabes.
MIT.
MIT. On se branche sur MIT. Même pas à ça. On se donne des comptes sur des librairies du Congrès américain, puis c'est fini. Là, on aura tous les livres qu'on veut, etc. C'est ridicule ce débat-là. Il est ridicule. Il est absolument ridicule. Ne serait-ce que par respect par rapport aux livres. Je veux dire, moi je lis, je suis un grand lecteur, je lis régulièrement, je lis pas des livres de mathématiques le soir, je veux dire, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de d'apprécier le mot, le verbe, les idées, etc. Donc c'est un argument à mon avis qui tient pas debout.
D'autres questions qui sont plus, je dirais, d'ordre pas politique, mais qui sont quand même d'ordre d'ingérence politique. On sait très bien que durant la crise, beaucoup ont expliqué la crise aussi par la situation politique en Égypte. Beaucoup pensent que l'Égypte cherchait cette qualification pour assurer le passage du pouvoir entre le président et son fils. Et que l'État égyptien en tant que tel était responsable ou même a manipulé les médias. Donc c'était l'État égyptien qui nous a attaqués. Et que l'État égyptien n'a pas fait en sorte que l'Algérie ne soit pas insultée. Et que, quelque part, ces éditeurs-là, il faut mentionner qu'il y a beaucoup d'éditeurs privés, mais aussi des éditeurs qui ont une relation directe avec l'État. Et que ce boycott rentre la relation entre État et État. Et c'est normal que l'État algérien réagisse de cette sorte-là pour répondre à la négligence ou même à l'ingérence ou à la manipulation de l'État égyptien, puisque le fils du président a intervenu à la télévision. Il a attaqué l'Algérie d'une façon directe ou indirecte aussi.
Monsieur Hamzian ne représente pas l'État, que je sache. J'aurais compris, je l'ai dit au début, j'aurais compris qu'il y ait une décision politique qui est valable ou non, on pourrait en discuter. Mais monsieur le commissaire du SILA, et il dirige un salon du livre. Il n'a pas à faire de politique. Il n'y a personne qui lui a donné le mandat de prendre une position d'interdire ou de ne pas interdire un livre. Ça, c'est une décision qui est politique, qui est purement politique. Monsieur le commissaire devrait défendre le livre, nous ramener des livres des contrées les plus lointaines, pas juste des livres de nous faire découvrir une littérature qui nous est inconnue, nous faire aimer des livres, je sais pas, de peuplades perdues dans le monde. Vous donc, comprenez ce que je dis?
En fait, vous aurez compris que c'est plutôt le ministre qui dit non, exactement. Et que lui, en tant qu'éditeur, il va dire non, il faudra ramener le livre.
Je démissionne parce que vous mélangez. Moi, j'aurais compris que la ministre ou quelqu'un d'autre dise « Ok, on boycotte les livres égyptiens » et que le commissaire dise « Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis là pour défendre le livre et en le boycottant, vous démolissez le livre et je démissionne. » C'est ça qui me gêne. Il ne joue pas son rôle. Il ne joue pas le rôle pour lequel il est payé. Il doit défendre le livre. Il ne doit pas défendre une position politique.
Donc vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, nous recevons Dr Ahmed Ben Saada, auteur, initiateur de cette réaction d'intellectuels algériens à travers le monde à la décision du commissaire du Salon international du livre d'Alger de boycotter les éditeurs égyptiens. On a parlé donc durant la première demi-heure sur les objectifs et les finalités de cette démarche. Dans la deuxième demi-heure, on est en train de ramener des réactions de plusieurs Algériens à travers des forums essentiellement. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas eu de réaction contre la démarche assez structuré, un article je pense qui a réagi d'une façon officielle à la démarche. Et à la troisième demi-heure, on va parler de cette, on peut dire, cette nouvelle approche de vouloir faire changer les choses à travers des démarches, on peut dire apolitiques, mais qui ont plutôt un fond intellectuel pour faire évoluer les choses en Algérie. On va prendre une petite pause musicale et on va revenir après la pause.
كلها حاجة يقبل شجاعة سويا سنين
vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et comme on l'a bien mentionné, nous recevons ce soir Dr Hamid Msaada qui nous parle de cette initiative pour contester cette décision du commissaire du Salon du Livre International d'Alger qui a décidé donc d'écarter les éditeurs égyptiens de l'édition 2010 qui va se dérouler au mois d'octobre. Monsieur Hamid Msaada, on revient maintenant toujours aux questions qui ont été posées à travers les forums pour contester votre démarche. Un des arguments qui dit que, vous savez qu'un peuple, c'est la nature d'un peuple d'être émotif. On ne peut pas demander à un peuple d'être rationnel à 100%. L'émotion fait partie de la démarche sociale d'un peuple pour réagir d'une façon positive ou négative. Et on sait très bien que beaucoup de décisions politiques à travers le monde ont été prises sur la base d'une réaction émotive d'un peuple et les politiciens, des fois, se soumettent à ces décisions émotives ou des orientations émotives. Le peuple algérien, il a été blessé et, d'une façon globale, considère l'Égypte comme un bloc monolithique qui a insulté l'Algérie, qui a brûlé le drapeau de l'Algérie. On sait très bien, tout le monde le sait, à titre individuel, à tête reposée, que c'est pas le cas, que c'est pas tous les Égyptiens. Moi, personnellement, j'étais en Égypte au moment des événements, donc je sais qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui venaient demander des excuses, c'est une réalité, et qui étaient déçus de ce qui s'est passé par rapport aux supporters, par rapport aux journalistes. Donc, il n'y a aucun peuple qui est monolithique. Donc, on sait très bien que c'est pas tous les Égyptiens qui ont fait des déclarations. Mais le peuple, en tant que peuple, a une réaction émotive à une Égypte à travers ses médias qui sont considérés officiel, puisque c'était des télévisions, il faut mentionner, majoritairement privées. Et que, c'est au-delà de donner le temps, comment votre démarche, qui est très rationnelle, qui voit l'intérêt de l'Algérie et du peuple algérien à long terme, à travers la présence de tous les éditeurs du monde, s'il le faut, pour apporter le savoir qui viendrait de partout, mais comment joindre l'utile à l'agréable, comment joindre cette démarche intellectuelle raisonnée à une réaction émotive, subjective, mais justifié.
Alors, c'est vrai que cette question est très importante. Le problème dans une réaction d'un peuple, c'est que souvent, les médias jouent un grand rôle. C'est vrai que les médias égyptiens ont poussé le bouchon très très loin, pour la simple raison qu'ils ont des médias très forts. Ils sont beaucoup plus présents au niveau médiatique que les Algériens. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des médias algériens aussi qui ont joué sur cette vague-là. Donc il y a eu même des annonces dans certains médias qu'il y a eu des morts, etc. Donc on a joué sur les sentiments des gens. Ce que je veux dire, c'est que un sentiment, une émotivité est toujours entretenue par des médias pour le bien ou le mal ou en fait pour mousser leur vente ou autre chose. Le rôle des intellectuels, puis le rôle des responsables justement, c'est de prendre des décisions qui mènent à l'apaisement. Exemple, si par exemple le commissaire du SILA n'avait pas fait cette déclaration, puis que les gens seraient venus, les Égyptiens seraient venus dans ce salon-là. Pensez-vous qu'il y aurait des gens qui sont venus avec des trucs, des cailloux, etc. Et ils ont lancé sur le. Personnellement, je ne pense pas ça. C'est que lui, en prenant cette décision irréfléchie, il crée justement cette animosité. Il la crée. C'est-à-dire que même maintenant, si les Égyptiens viennent, on se demande s'ils vont pas être attaqués juste parce que le commissaire a dit ça. Vous comprenez? Actuellement, donc, dans les articles qui sont sortis, que j'ai cités tout à l'heure de Chokri Amari, il y a des Égyptiens qui habitent encore en Algérie. Il y a des gens qui font des affaires en Algérie. Pourtant, ils ne sont pas attaqués. Les matchs qui se jouent entre l'Algérie, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais pire que ça, j'ai appris que une équipe algérienne est allée faire un stage de préparation de Steph, elle est partie en Égypte. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ça se fait qu'une équipe va se préparer en Égypte puis qu'elle a toutes les facilités possibles pour faire une préparation, et là on me dit des gens de lettres qui vont venir en Algérie et ils vont être attaqués, ils vont être, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour revenir à l'essence même de la question, les médias ont leur rôle à jouer, mais aussi les responsables ont leur rôle à jouer. Et les intellectuels viennent là-dedans. Nous, en tant que groupe de personnes qui ont réfléchi à la question, nous disons au peuple, c'est pas au livre qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre, s'il y a quelqu'un à qui s'en prendre, c'est aux personnes qui ont fait l'acte. Et puis tout le monde a regardé la télé, on peut les nommer. Pourquoi il n'y a pas eu une commission qui s'est créée pour justement identifier les personnes et prendre des mesures légales contre eux? Comme disait un de mes collègues, le foot a quelque chose qui le protège, c'est la FIFA. Le livre n'a pas de FIFA. Le livre, c'est un parent pauvre, on peut lui taper dessus. Et essayez de ne pas jouer un match. Vous êtes exclu de la FIFA.
Les sanctions sont
très lourdes.
Très lourdes.
Et voilà. Et c'est ça le problème.
Mentionnez que même l'Égypte est tombée dans ça, puisqu'il y a eu une déclaration de quelques responsables de la fédération de football égyptienne de boycotter. Non, c'était plutôt le Majlis Al-Qawmi Riyad, et donc c'était l'équivalent du conseil donc olympique égyptien qui a déclaré qu'ils vont plus participer avec l'Algérie. Ils sont retraités tout de suite. Parce que ça très bien qu'ils vont avoir des sanctions très lourdes.
Et puis autre chose. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu des appels comme les nôtres, des appels à lever l'interdiction par le Haut Conseil islamique, par exemple. Il y a eu aussi un groupe d'Égyptiens, de d'écrivains égyptiens et algériens qui se sont prononcés aussi sur ça. Donc, actuellement, la plupart des intellectuels veulent justement que le livre égyptien revienne en Algérie.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. On va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec notre invité, M. Ahmed Mesaad.
Radio Centre-Ville accueille plusieurs jeunes de différents programmes sociaux qui font la lutte au décrochage scolaire. Nous nous rendons dans plusieurs écoles primaires et secondaires pour permettre aux jeunes écoliers de 10 à 12 ans de faire de la radio en direct. Aidez-nous à continuer ce travail de sensibilisation en participant à notre Radiothon qui se déroulera la fin de semaine du 10, 11, 12 septembre 2010 sur le 102,3 FM. Pour faire un don, composez le 514-495-2597 ou via notre site www.radiocentreville.com. Et n'oubliez pas que les 10, 11, 12 septembre, un don pourra faire toute la différence pour les 35 prochaines années. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Et parce que c'est animateur.
Oui, on dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Oh, ben là, tu fais une surprise!
Et quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui. Une heure de cinéma. Derrière l'image, avec Francine Morando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Bonjour Montréal. Un reportage d'actualité hebdomadaire. 2 heures pour vous dévoiler la même histoire sous différents points de vue. En addition, nous vous offrons de petites astuces ici et là pour rendre votre vie quotidienne hors de l'ordinaire. Rejoignez-nous chaque dimanche matin de 8 à 10. Bonjour Montréal.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. L'émission est encore avec vous jusqu'à minuit, avec vous à l'animation Lamine. Notre invité ce soir, c'est Dr Ahmed Mesaad, auteur, journaliste et aussi initiateur de cette pétition qui est devenue un élan, je dirais une réaction au niveau de l'intérieur du pays, en Algérie, plusieurs journalistes, plusieurs intellectuels et aussi au niveau de la diaspora à travers les quatre coins du monde qui dénoncent cette décision du commissaire donc du Salon international du livre d'Alger d'écarter les éditeurs égyptiens de participer à ce salon. Il faut mentionner, comme je l'ai dit au début, que les éditeurs égyptiens sont parmi les plus présents et aussi qui étaient parmi les premiers à participer à ce salon qui a été créé depuis plusieurs années. Vous avez mentionné la question de la violence donc autour des matchs de soccer qui ont eu lieu entre l'Algérie et l'Égypte, mais aussi je voudrais revenir sur la déclaration du commissaire après votre initiative, parce qu'au début il avait parlé que cette démarche rentre dans le cadre de ne pas blesser le peuple algérien qui est très disons déjà blessé par la réaction égyptienne à la qualification d'Algérie à la Coupe du Monde. Et après votre initiative, il fait une autre déclaration. Il parle d'un élément très pratique, il parle de l'élément sécuritaire. Moi, ce qui m'inquiète dans cette déclaration, la deuxième, premièrement, elle est en contradiction avec la première, puisque là, il ne parle pas de toucher les sentiments du peuple algérien, il parle d'une question pratique. Hein. Tout le monde est d'accord, protéger la protection des éditeurs est un élément très important. On ne peut pas se permettre de ramener quelqu'un dans un contexte où on ne peut pas assurer sa sécurité. Mais par contre, en réalité, est-ce que vous ne pensez pas qu'en déclarant cette déclaration, et que si les éditeurs viennent aujourd'hui, je pense qu'il les a mis plus en danger, parce que en les citant comme étant une cible possible, ça les rend une cible de facto. Parce que peut-être des extrémistes, des personnes qui peuvent réagir d'une façon violente par la présence de ces éditeurs-là, pourront maintenant qu'ils sachent qu'il y a un enjeu, en fin de compte, de la présence de ces éditeurs sur la relation algéro-égyptienne, ils peuvent réagir. Est-ce que, d'après vous, premièrement, je voudrais avoir votre réaction par rapport à la réponse du commissaire en citant la question sécuritaire. Deuxième élément, si aujourd'hui le commissaire décide de céder à cette pression nationale et internationale, vous pensez-vous pas qu'après cette déclaration, les éditeurs peuvent être en danger, même si le danger est toujours sous contrôle? Comme vous l'avez bien mentionné, on a pu contrôler un match de foot, on pourrait aussi sécuriser un salon de livres.
Oui, en fait, le retournement de situation, de déclaration du responsable du SILA est quand même assez brusque, parce qu'il est passé d'un argumentaire, disons, émotif par rapport à ce qui s'est passé, brûler le drapeau, etc. Ce qu'il a, il a dit c'est par respect au peuple algérien et aux gens qui ont été maltraités au Caire, etc. Et il a complètement oublié ça. Et il a parlé de l'argument sécuritaire. Son argument sécuritaire ne tient pas debout, pour la simple raison que, en affirmant cela veut dire que n'importe qui vient en Algérie, sa sécurité n'est pas assurée. Ça c'est au départ. Quand on organise un salon du livre de cette envergure-là, on doit faire en sorte que la sécurité doit être absolue pour tout le monde, surtout qu'on sort d'une décennie noire. Donc notre visibilité,
notre image
dépend de ça. On peut pas ramener des gens. Supposer qu'on ait un problème avec quelqu'un et puis là les gens vont venir, quoi, c'est le peuple algérien, c'est un peuple de fous qui vont venir saccager les livres. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Deuxièmement, un match de foot. Vous savez, le match de foot à l'aller, la GSK contre l'aller, 5000 policiers. Pour un match de foot. Puis lui, il déclare, il dit, moi, j'ai pas un sou à mettre pour la sécurité de ces gens-là. Comment on peut mettre 5000 policiers pour un match de foot et pas rien mettre, pas un sou pour la sécurité des autres personnes? Donc, la crédibilité de notre pays est en jeu. Autre chose, bon, c'est vrai que en faisant toute cette polémique autour de la sécurité des gens qui viennent d'Égypte, c'est sûr qu'il ajoute un petit peu d'huile sur le feu et qui crée une espèce de problème sécuritaire autour de cela, c'est sûr. Mais l'Algérie est un pays souverain. Je veux dire, l'Algérie ne peut pas assurer la sécurité d'une poignée de personnes qui vont venir dans un salon du livre. J'arrive pas à comprendre. Il ne s'agit pas d'inviter des gens chez soi, là. C'est un pays qui invite. Il y a une dimension. Moi, je ne peux pas croire que l'Algérie ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens et de ses invités. Nous sommes un pays qui prenons soin de nos invités, ou bien au contraire.
La dernière partie de l'entrevue, je voudrais qu'on parle de cette démarche. Je voudrais que vous nous citiez les personnes, les personnalités, donc surtout dans le monde de la littérature, qui ont signé cette pétition. Mais avant de partir, parler de cette partie qui est plus générale, dans laquelle je voudrais aussi que nous parler de ce qu'on n'a pas vu dans les articles. La démarche, les communications entre les différentes personnes qui ont participé. Et est-ce qu'on peut espérer voir cette initiative comme un exemple où la diaspora, avec les intellectuels, avec le peuple de l'intérieur, interagissent sur des sujets aussi importants? Avant de passer à ça, j'ai une dernière question qui est de l'ordre global. Comment voyez-vous la politique de la gestion? Pas dans le sens politique, mais dans le sens gestion, la politique de la gestion de la relation entre l'Algérie et l'Égypte que l'Algérie doit adopter dans tous les domaines après ce qui s'est passé. Donc quelques mots, une synthèse, ouais. je dirais que, parce que actuellement, vous avez contesté une certaine démarche, il y a eu des argumentaires émotifs et tout ça. Mais d'après vous, qu'est-ce que l'État algérien, qu'est-ce que le peuple doit faire vis-à-vis de l'Égypte après ce qui s'est passé? Ça fait presque une année, très bientôt, au mois de novembre, ça fait une année des événements. Quelle serait la démarche intelligente qui va sauvegarder nos intérêts émotifs, mais aussi nos intérêts économiques, politiques, culturels, vis-à-vis d'un État aussi important que nous, peut-être dans le monde arabe, et au niveau de la culture, je pense qu'il est un des États les plus importants.
Moi, à mon avis, il faudrait qu'il y ait de l'honnêteté politique. C'est-à-dire que les politiciens sont payés pour faire ça. Normalement, ils devraient jouer leur rôle. Ne pas donner leur rôle à des subalternes, comme le commissaire du Salon du Livre. On devrait se parler à un haut niveau. On devrait créer des commissions pour voir qui a fait quoi et pourquoi, etc. Régler nos comptes à un niveau de transparence très élevé et ne pas continuer à faire intervenir des sous-fifres. Le problème doit être réglé à haut niveau, au niveau politique.
Donc, si je comprends bien, vous dites pas dans votre démarche, même d'une façon personnelle, vous dites pas qu'on tourne la page. Vous dites que s'il faut réagir, il faut réagir d'une façon ciblée sur la base de commissions.
Ah ben certains, nous ne faisons pas de politique. Nous défendons le livre. C'est différent. Nous défendons le livre. Nous défendons la lecture. Nous défendons la culture. Nous voulons que nos concitoyens lisent, que nos concitoyens ne soient pas belliqueux, qu'ils ne cherchent pas juste à faire la guerre et tout. On est en plein Ramadan. On comprend pas. Moi, personnellement, je comprends pas. Dîn, notre religion nous demande à être tassam, wa'fi Ramadan, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu des mails d'insultes, de vraies insultes. Les gens sont en plein Ramadan. Je les ai répondu Ramadan Karim. J'ai répondu à Ramadan Karim. Les gens sont belliqueux. Il faudrait qu'on change de façon de penser. Il y a eu un problème entre deux pays. Ces problèmes-là peuvent être réglés. Sinon, comment ça se fait qu'il y ait encore des livres français en Algérie? Les Français nous ont colonisés pendant 132 ans. Ils nous ont tués ils nous ont pas insultés sur 1,5 million là de shahid.
C'est eux qui les ont tués.
Et c'est eux qui les ont tués. Essayez de maintenant d'interdire le livre à français en Algérie. Interdisez-le, vous allez voir. Mais c'est impossible, inimaginable. C'est ça qu'on veut, on essaye de dire. On essaye de dire, il y a eu des problèmes. Nous sommes les premiers à avoir été touchés par ces problèmes-là. Mais on ne doit pas faire payer tout cela au livre, alors qu'on continue à jouer au foot, alors qu'on continue à aller s'entraîner au Caire, etc. On trouve ça ridicule. Tout ce qui touche le foot, on l'accepte. Il n'y a personne qui dit on boycotte le foot, on joue plus avec eux, on fait plus de matchs avec eux. Non, on les accueille avec des roses. Moi, j'aimerais bien que les éditeurs soient accueillis avec des roses et avec des livres roses.
Donc, comme on avait promis, on va parler, on a encore 20 minutes, de cette démarche. Première, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms qui ont signé?
Alors,
bien sûr, on donne l'importance à toute personne qui a signé ou a pris l'initiative.
Oui, toutes les personnes sont importantes. Excessivement importantes, ouais. Sauf que bon, moi je les ai mis sur mon site par ordre de signature, donc il n'y a pas d'une personnalité plus haute que les autres. Bon, mais les gens, quand on va sur les sites, ils disent bon, il y a eu flan. Les gens qui ont signé avec moi au début, ils étaient une poignée, on était une dizaine, et cette dizaine là compte. Alors ce n'est pas une pétition, juste pour dire, ce n'est pas une pétition, c'est un appel. Une pétition normalement est ouverte à tout le monde. Cet appel a été fait de bouche à oreille, c'est-à-dire plutôt de clavier à écran. Donc chaque personne contactée contacte des personnes qu'il connaît, et c'est comme ça qu'on est rendu à ce niveau-là de signature. Parmi les signataires, je pourrais citer énormément de journalistes, Monsieur Ahmed Hamlaoui, Yassine Temlali, Abdelrahman Zakkad, etc. Je pourrais citer les historiens Mohamed Harbi par exemple et Gilbert Meynier. Je pourrais citer aussi des philosophes comme Mohamed Tahar Ben Saada, qui est extrêmement connu en Belgique, qui vit en Belgique. Je pourrais citer aussi des écrivains comme Wassila Tamzali, Amar Lakhous, Mohamed Sari, Leila Marwan, Zahira Houfani, Boujama Karesh, des cinéastes comme Abdelnour Zahzah, Samia Chala, Ali Belloud, etc. Donc Il y a énormément de professeurs comme le professeur Tayeb Hafsi, Bachir Ma'azouz et d'autres en France, Omar Hajjaj, c'est vraiment des signataires, je dirais, qui font honneur à notre pays. Et puis, ce qui est étrange, ce que vous avez soulevé, plusieurs observateurs, moi je connais pas tout le monde, hein, parce que ça fait 20 ans que je vis au Canada, donc je connais pas tout le monde, mais ils me disent mais comment c'est impossible. Il y a des gens là-dedans qui jamais ils auraient signé avec l'autre. Et pourquoi, à mon avis, ils ont signé? Parce que la cause était juste. La cause du livre, c'est une cause qui rassemble. La cause de la culture est une cause qui rassemble. Contrairement à ce qu'un journaliste qui s'est fait appeler Mohamed Sadr Lossif, qui a publié un article qui s'appelle « Les éditeurs égyptiens interdits de Silla, les dessous d'une polémique » et qui, à mon avis, c'est le seul article contre l'appel. Il dit des intellectuels algériens qui, selon des observateurs, ont des comptes à régler avec Smaïl Hamziane, commissaire du CELA, et avec la ministre de la Culture, Khalida Toumi. Nous n'avons rien à régler avec ces messieurs-là. Et puis si ce monsieur Hamziane changeait d'avis, nous serons les premiers à le féliciter d'avoir écouté la voix du bon sens. Nous n'avons aucun problème avec Khalida Toumi. Nous ne faisons pas de politique. Et la démarche de ce seul article négatif est une démarche sournoise. C'est de dire, ces gens-là, on les salit, donc on les discrédite après. Donc tu les salis, oh, ils ont quelque chose à régler. Je ne connais pas M. Ismaïl Hamziane, je ne l'ai jamais rencontré. Pour moi, là, c'est un citoyen algérien qui a une responsabilité, qui a fait une déclaration malencontreuse. La meilleure chose pour lui, ce serait de revenir sur sa décision. Tout le monde fait des erreurs. Je veux dire, la plupart des politiciens, des gens qui sont dans le domaine public font des erreurs et après réflexion. À mon avis, c'est pas quelqu'un il a pas consulté avant de faire cette démarche là.
Moi personnellement, je peux avouer que un élément que vous avez apporté dans cette démarche là, c'est un petit peu la contradiction de la démarche algérienne d'une façon globale. Parce que, comme vous l'avez bien mentionné, des joueurs de l'équipe nationale égyptienne qui ont insulté l'Algérie ou le peuple algérien d'une façon directe ou indirecte ont été reçus par les fleurs parce qu'ils accompagnaient l'équipe de l'Ahli. Je ne citerai pas de nom, mais parmi les joueurs qui ont même dit des choses un petit peu négatives sur l'Algérie qui étaient reçues. Et moi, personnellement, je dirais qu'à un moment donné, tous les conflits, même les conflits qui ont fait 20 millions de morts, sont terminés par une réconciliation. Donc, on ne peut pas continuer un affrontement, qu'il soit médiatique ou politique ou militaire, d'une façon éternelle.
Exactement.
Mais je voudrais vraiment revenir sur la question de la démarche. Je voudrais prendre un peu plus de temps qui nous reste, 10-15 minutes. Je sais que vous n'avez pas, c'est pas une démarche politique, mais ce que je trouve intéressant et ce que je voudrais bien que vous partagiez avec nous, c'est les conclusions de cette démarche. Vous avez vécu une expérience extraordinaire en lançant une cause juste par rapport
à ma conviction.
Exactement. Et vous avez eu le support de plusieurs personnes qui, moi, je sais, en connaissant un petit peu la scène algérienne, ne signeraient jamais le même document pour des raisons X ou Y, mais vous avez pu les regrouper. D'après vous, d'après cette expérience, et je dirais qu'on peut dire que le dossier Algérie-Égypte, on l'a fermé, c'est plus au niveau de la démarche. D'après vous, ce genre de démarche, parce que c'est des démarches très intéressantes, parce que l'Algérie n'a pas pu, depuis très longtemps, avoir des consensus. Et je parle d'un consensus qui viendrait du peuple sur des sujets essentiellement politiques, à un moment très difficile que l'Algérie a vécu. Mais cette démarche-là, peut-être qu'elle a été sur un sujet important, mais simple, très cerné, a pu regrouper beaucoup de personnes. Et je dirais qu'avec le temps, de plus en plus, c'est comme un effet de boule de neige, parce qu'on voit de plus en plus d'autres personnes qui se rejoignent en voyant la masse donc de personnes et leur poids intellectuel qui sont derrière cette revendication. D'après vous, est-ce qu'il y a un espoir de voir le rôle de l'intellectuel algérien, loin de la politique, loin d'une démarche purement politique, mais dans une démarche purement intellectuelle, se mobiliser autour d'autres causes similaires dont souffre le peuple algérien à plusieurs niveaux?
Alors, c'est vrai que au début, ça a été très difficile. Mais une fois que on explique, on fait un travail pédagogique d'explication, de dire qu'une cause vaut la peine d'être portée, qu'une cause vaut la peine qu'on combatte pour elle, les gens embarquent. Les gens embarquent parce qu'ils savent très bien que nous, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ça. Il n'y a pas de quelque chose de négatif par rapport à ça. Tout est bénéfice pour notre pays, pour l'image de notre pays. Être belliqueux, c'est très facile de dire, ok, les Égyptiens là, mais ils viennent plus chez nous. Ok, c'est très facile. Mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis c'est fini. Mais de dire non, vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait réagir. C'est très difficile. Et quand on a une démarche d'une difficulté aussi grande, c'est à ce moment-là qu'on voit si les intellectuels jouent leur rôle. Et moi personnellement, je suis extrêmement fier. Je reçois des courriels de personnes de partout, de par le monde, qui me disent en quelques phrases qu'ils disent qu'ils sont d'accord, que cette décision est pas bonne, que ça serait bien qu'on continue dans ce chemin-là. Il y a même qui disent bon, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ok qu'ils décident de laisser rentrer les Égyptiens ou pas. Et nous en tant qu'intellectuels, est-ce qu'on est capable de se mobiliser pour autre chose? On m'a déjà posé cette question et personnellement je serais très fier de mener d'autres combats, de donner une plateforme pour qu'on ait des débats intelligents, fructueux pour notre pays et pour nous. Mettre en contact des Algériens, la moitié des signataires sont algériens, l'autre moitié vient de partout de par le monde, et ils ont des horizons divers, il y a des universitaires, j'ai oublié, il y a même des médecins, il y a des professeurs d'université, ils sont d'horizons divers, mais la cause du livre les a touchés, et ils sont solidaires avec ce genre d'approche. Ce que je voudrais mentionner, c'est que au début, notre but, c'était de demander au commissaire de changer d'avis. Mais on s'est rendu compte, finalement, que un des objectifs qui a été atteint par cet appel, c'est de mettre en commun des gens. Déjà au départ, mettre en commun des gens, les faire parler, les faire discuter, les faire jaser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont signataires, qui écrivent aussi des articles qui vont dans le même sens que l'appel. C'est aussi de montrer que des intellectuels algériens qui vivent en Algérie, qui vont à l'étranger, peuvent travailler main dans la main. Je pense que c'est très intéressant. Si on pouvait faire cette dynamique-là dans d'autres domaines, pas juste de revendications, mais de faire travailler des gens ensemble sur un dossier, pas revendicatif, mais de dossier de monter quelque chose en Algérie, par exemple.
À titre d'exemple, on sait très bien qu'un des problèmes, c'est une réalité de toute nation, c'est la question de l'éducation. Beaucoup de débats, je parle d'éducation parce que je sais que vous êtes aussi spécialiste de ce sujet-là, serait intéressant à travers toutes ces compétences, de faire des propositions, pas dans le sens revendication, mais de propositions sur l'amélioration de notre système d'éducation. On sait quand même qu'il y a beaucoup de tâtonnements. On est passé donc du système français au système fondamental. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. À chaque année, il y a de nouvelles réformes qui arrivent avec des idées des fois qui ont été déjà testées ailleurs et on fait les mêmes erreurs. Donc, ça serait intéressant. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a une possibilité à travers cet exemple d'élan pour lancer ce genre d'initiative, parce que vous avez vécu l'expérience. Je pense qu'au début, peut-être vous n'avez pas donné l'espoir à vous-même d'avoir l'ampleur que ça a pris. Moi, personnellement, j'étais impressionné. Je conseille tout le monde, ceux qui nous écoutent ce soir, d'aller consulter le site de M. Ahmed Ben Saada. Donc, Ahmed Ben Saada, A-H-M-E-D, Ben Saada, B-E-N-S-A-A-D-A.com. Le Ahmed Ben Saada en un seul mot. Et d'aller un petit peu, c'est dans la première page, en bas, il y a le résumé de la couverture. Moi, je suis impressionné. Ouais. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu qu'un événement, quand même national, qui soit couvert par Le Point, Le Monde, l'Arabia, Al Jazeera, donc CNN. C'est vraiment impressionnant.
Je dirais que même l'ampleur de la médiatisation, même nous a surpris. On pensait pas que ça allait avoir cet effet-là. J'ai même reçu un appel de BBC Londres pour me faire une interview. Je suis passé à Radio Canada. J'ai fait des interviews avec Louatan, etc. Donc ça a pris vraiment, ça a touché une corde sensible en Algérie. Premièrement, pourquoi doit-on prendre des décisions belliqueuses à un haut niveau? Et deuxièmement, ça a remis le livre au centre des intérêts dans un mois, dans le mois sacré où les gens s'occupent beaucoup plus
de la
nourriture et des moussets de salettes.
Merci beaucoup. Donc, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Nous avons aujourd'hui comme invité le plaisir de recevoir monsieur, donc, Dr. Ahmed Ben Saada, auteur et donc intellectuel qui intervient sur plusieurs sujets. Je tiens à mentionner aussi que monsieur Ahmed Ben Saada a plusieurs articles sur des sujets comme l'islamophobie en Occident en général qui sont publiés sur son site et sur plusieurs médias, internet à travers le monde et des journaux en Algérie. On va prendre une petite pause musicale et on reviendra pour quelques minutes pour clore l'entrevue avec notre invité. Un taxi Maghreb qui arrive presque à sa fin sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Ce soir, notre émission était autour de la participation égyptienne non pas à la Coupe d'Afrique, mais au Salon international du livre d'Alger, puisque suite aux événements, suite à ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Égypte, le commissaire avait décidé donc de boycotter les éditeurs égyptiens. Une réaction internationale et avec nous ce soir, donc c'était Dr Ahmed Ben Saada qui nous a parlé de la démarche. On a essayé de ramener aussi des questions qui sont contre cette démarche-là pour enrichir le débat. Il nous reste quelques minutes, je dirais une minute. Je vous laisserai le soin donc de dire un mot à des personnes qui sont contre la démarche, plutôt que de parler avec ceux qui sont d'accord avec la démarche.
Alors, ce que je leur dirais, c'est que nous sommes dans un mois de Maghfira. Premièrement, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, je dirais que tout ce qui est belliqueux ne fait pas avancer un pays. Et il faut séparer les sentiments de la raison, et c'est vrai que les gens nous ont insultés, ça nous a fait mal, etc., mais on ne doit pas faire payer tout ça au livre. Le livre, c'est quelque chose de sacré et on doit le préserver.
Et pour résumer, Iqra. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Je sais que vous êtes très occupé d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue, qui a été très agréable. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, on va vous laisser avec le programme de Radio Centre-Ville. Vous étiez avec l'émission Taxi Maghreb. Bien sûr, on vous remercie, Sahmed Sahaïdek.
Merci, Sahaïdkoum, et Inch'Allah, Ramadan Moubarak, et Inch'Allah, y'audna bel khair ou le barak.
Inch'Allah, on vous remercie, Aïdkoum Moubarak. Donc, la semaine prochaine, ça va être notre ami Aïssa, et on va venir vous visiter une autre fois. Donc, 15 jours après, à l'akhir, c'était l'émission Taxi Maghreb avec l'ami de notre invité ce soir, c'était Dr Ahmed Ben Saada. Au revoir.